Vous écoutez On lit pour vous. Iran,
sauvetage en territoire ennemi. Un texte d'Olivier O'Mahony, édition d'avril 2026, et reproduit dans La Presse Plus du 12 avril 2026. En sous-titre, alors qu'un de leurs avions de chasse a été abattu, les États-Unis ont réussi à exfiltrer leurs soldats après une opération d'une ampleur historique. Ces restes calcinés auraient pu hanter durablement l'Amérique. Le 3 avril, à l'aube de la sixième semaine de l'opération Fureur épique, l'US Army perdait pour la première fois un aéronef au-dessus de l'Iran. Un démenti cinglant aux déclarations de Donald Trump qui présentait deux jours plus tôt la République islamique comme, guillemets, « vaincue et complètement annihilée ». Fin de citation. Pour s'éviter un traumatisme digne de la prise d'otage de l'ambassade américaine de Téhéran en 1979, Washington a échafaudé une opération de sauvetage qui a tout d'un blockbuster hollywoodien. Une prouesse qui permet à la Maison-Blanche de remobiliser l'opinion critique envers un blitzkrieg qui tourne à la guerre d'usure. Ce fut le meilleur dimanche de Pâques que nous ayons jamais passé. Fin de citation. En ce lundi pascal, le 6 avril, Donald Trump débarque devant les journalistes accrédités de la Maison-Blanche. Face à lui, la salle est comble, mais, une fois n'est pas coutume, il ne le souligne même pas. Il semble fatigué et soulagé. « Dieu était avec nous », lâche-t-il avant de reconnaître avoir eu, citation, « un petit peu de chance ». Fin de citation. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand, jeudi le 2 avril à 22h10, heure de Washington, le général Dan Kane, chef d'état-major des armées, et Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, apprennent qu'un avion de combat F-15 Strike Eagle de l'US Air Force a été abattu à 320 km à l'intérieur du territoire iranien, près d'Ispahan, dans les gorges escarpées des monts Zagros au sud-ouest du pays. Ils préviennent tout de suite le président. À bord se trouvent deux membres d'équipage, un pilote répondant au nom de code Dude 44 Alpha et l'officier du système d'armes, un colonel baptisé Doug 44 Bravo. Les deux hommes ont réussi à s'éjecter juste avant le crash. Ils ont atterri à plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Pour le maître de la Maison-Blanche, c'est le scénario catastrophe. La première fois en plus de 20 ans qu'un avion américain piloté est perdu en territoire ennemi. Le Pentagone redoute la capture des deux hommes par le régime de Téhéran, qui pourrait s'en servir comme outil de propagande et moyen de pression à un moment où la guerre est de plus en plus impopulaire aux États-Unis. Que faire? Au milieu de la nuit, Trump donne son feu vert pour une opération de sauvetage. Un pari qui, dira-t-il, ne fait pas l'unanimité dans son entourage. Citation, on aurait pu se retrouver avec une centaine de morts au lieu d'un ou deux, relèvera-t-il, fin de citation. Il a en mémoire la désastreuse opération de sauvetage tentée en 1979 en Iran. Elle visait à libérer 53 membres du personnel de l'ambassade américaine prise en otage, mais c'était soldé par le décès de 8 soldats américains, ce qui avait ruiné les chances de Jimmy Carter d'être réélu en 1980. Seulement voilà, pour l'armée américaine, guillemets, « ne laisser personne derrière », fin des guillemets, est un impératif moral que Trump partage. Le temps presse. Au Pentagone, on sait que les forces iraniennes et les habitants à proximité s'activent. Les pilotes américains sont formés pour faire face à ce genre de situation. Ils suivent un protocole appelé SERE pour survie, évasion, résistance et fuite, en français. Ils sont équipés d'une balise qu'ils sont censés ne pas trop utiliser pour éviter d'être repérés par l'ennemi, d'un dispositif de communication crypté avec le commandement central américain et d'une arme. C'est grâce à ces outils que le Pentagone parvient à localiser très rapidement le premier des deux pilotes perdus. C'est le pilote Vendredi 3 avril, dans la journée, deux hélicoptères Black Hawk sont envoyés pour le récupérer. Un combat furieux avec les forces iraniennes s'engage. Les appareils sont endommagés par les tirs au sol, mais au bout de 7 heures, les as de l'US Army parviennent à maîtriser la situation, poser leur appareil et évacuer Dude 44 Alpha. C'est la première bonne nouvelle de la journée que Trump s'apprête à annoncer. Sauf que, pour le deuxième homme, le sauvetage s'avère beaucoup plus difficile. Il a utilisé sa balise, repérée par les Américains, mais son système de transmission est défectueux. Le Pentagone a du mal à l'identifier. Pour ne rien arranger, le premier message de Dude 44 Bravo renvoie, suscite la méfiance. « Dieu est bon », écrit de manière cryptique le colonel qui, selon ses proches, est très croyant. Essaie-t-il de tromper l'ennemi au cas où ce dernier intercepterait la communication? Il sème en tout cas la confusion au Pentagone où l'on se demande s'il s'agit d'un piège tendu par Téhéran, confié ce week-end Donald Trump à une chaîne israélienne. Les échanges se poursuivent. Le soldat est blessé, il s'est foulé la cheville. Mais il a réussi à se cacher dans la crevasse d'une montagne après l'avoir gravi sur plus de 2 kilomètres. Un exploit. Au bout de 14 heures, les équipes du Pentagone parviennent à l'identifier de manière formelle. C'est bien lui qui est au bout de la ligne, et non un Iranien, et il est seul, et non entre les mains de l'ennemi. Il y a donc encore une chance de le récupérer. Pete Hegseth appelle Trump pour le lui annoncer. Il n'est alors plus question de communiquer sur le sauvetage de Dude 44 Alpha, car selon Donald Trump, une fuite a alors lieu. Une taupe aurait révélé aux médias qu'un soldat est sauvé, mais qu'il en reste un second à terre, alertant ainsi l'Iran. À cause de cette indiscrétion, l'opération serait alors, citation, « devenue beaucoup plus difficile », regrettait-il lundi lors de sa conférence de presse. Les services de renseignement américains constatent en effet, en ce vendredi 3 avril après-midi, l'une des équipes de recherche lancées par le régime de Téhéran se rassemble au pied de la montagne où se trouve Dude 44 Bravo, dont la tête est désormais mise à prix. Une présentatrice d'une chaîne de télé d'État exhorte, guillemets, tous les membres des tribus et tous les villageois à coopérer. Si vous capturez le ou les pilotes ennemis vivants, et que vous les remettez à la police, vous recevrez une récompense précieuse, promet-elle, fin de citation, sur un fond de marche militaire. Au Pentagone, on sait que la région est un repère d'opposants au régime de Téhéran, ce qui complique la tâche de ce dernier pour mettre la main sur le soldat. Trump décide néanmoins de lancer une armada inouïe. Citation, la deuxième mission de sauvetage mobilise 155 appareils, dont 4 bombardiers, 64 chasseurs, 48 avions ravitailleurs, 13 avions de sauvetage et bien d'autres encore, détaille-t-il lors de sa conférence de presse. Les 4 bombardiers larguent ainsi près de 100 bombes de 900 kilos guidées par satellite, ce qui permet de sécuriser le périmètre et de tenir l'ennemi à distance. Mais au Pentagone, on a encore du mal à localiser Dude 44 Bravo. La montagne est vaste. Citation. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, constate le président. Ce sont les agents de la CIA qui finissent par trouver l'endroit exact où le soldat se trouve samedi 4 avril dans la matinée, grâce à un logiciel ultra sophistiqué et confidentiel développé par l'agence. Pendant ce temps-là, à Washington, Donald Trump, qui a annulé son week-end à Mar-a-Lago, se garde d'aller jouer au golf. Son inhabituelle absence ne passe pas inaperçue. Dans l'après-midi, les rumeurs enflent. Il serait hospitalisé. Son cabinet est obligé de démentir la rumeur. Citation, « N'ayez crainte, le président, il ne s'arrête jamais de travailler », lance-t-il dans un tweet furibond qui accuse des gauchistes malades d'inventer des théories du complot insensé. Fin de citation. De fait, Trump suit en direct les opérations. Pendant toute la journée du samedi, la planification s'intensifie. Des centaines de soldats des forces spéciales sont mobilisés. Parmi eux, les membres de l'équipe SEAL Team 6, la troupe d'élite connue pour avoir mené le raid contre Oussama Ben Laden en 2011. Dans la soirée, ils donnent le top départ de la deuxième opération de sauvetage. Au début, tout se déroule à merveille. Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 avril, des commandos américains s'infiltrent profondément dans le territoire iranien sans être repérés. Une fois sur place, ils gravissent la montagne et découvrent Dude 44 Bravo dans sa caverne, où il les attendait, ensanglantés et affamés, depuis plus de 30 heures. Ils l'emmènent jusqu'à une piste d'atterrissage de fortune où les attendent deux gros avions MC-130 en contrebas, à l'intérieur desquels se trouvent plusieurs centaines de membres des forces spéciales. Ils croient alors leur opération presque accomplie. Erreur. Citation, un « holy shit moment », gros pépin en français, a surgi à la dernière minute. Fin de citation, raconte un haut gradé à Reuters. Car les deux avions MC-130 censés les embarquer hors d'Iran s'en sablent. Impossible de décoller. Les commandos d'élite risquent donc de se retrouver bloqués derrière les lignes ennemies. Ils tentent de dégager les roues des engins. Rien à faire. Il faut trouver un plan B. Le commandement central décide d'affréter plusieurs appareils supplémentaires, plus légers. Il faut les faire voler discrètement au-dessus du territoire iranien. Un pari ultra risqué qui va se révéler payant. Pendant plusieurs heures, jusqu'au lever du soleil, les soldats sont évacués par vagues, sains et saufs. Depuis les écrans de la Situation Room, le poste de commandement en sous-sol de la Maison-Blanche, Donald Trump et son équipe suivent en direct ce manège avec angoisse. Avant de partir, les soldats bombardent les deux avions MC-130 qui valent 100 millions de dollars chacun, ainsi que plusieurs hélicoptères qui ont servi à l'extraction. Ordre de Washington. Pas question que ces engins, dotés d'une technologie militaire dernier cri, tombent dans les mains ennemies. À minuit, heure de Washington, Trump apprend que Dude 44 Bravo est en sécurité hors d'Iran. Cette opération de sauvetage aura probablement été la plus chère de l'histoire militaire mondiale. 300 millions de dollars au bas mot. Mais pour le président des États-Unis, elle n'a pas de prix, car elle lui permet de parader ce lundi 6 avril dans la salle de presse de la Maison-Blanche où il célèbre les exploits des soldats américains et des agents de la CIA, tout en menaçant de prison les journalistes si ces derniers refusent de donner le nom de leur informateur qui, selon lui, aurait alerté le régime iranien de la présence d'un soldat américain sur leur territoire. Trump le sait, il s'en est fallu de peu que l'opération ne tourne au désastre. Ça en aurait été fini de sa présidence. Dude 44 Bravo est sérieusement blessé, mais il est hospitalisé au Koweït et s'en sortira, jure le président. Pas sûr qu'il puisse en dire autant de lui-même. Alors qu'il avait promis d'écraser l'Iran en un clin d'œil, le conflit est dans sa sixième semaine. Et les menaces de Donald Trump semblent, elles aussi, désormais se perdre dans le désert. Fin de ce texte en provenance de Paris Match, édition d'avril 2026, titré « Sauvetage en territoire ennemi », texte signé Olivier O. Mahoney et publié dans la Presse Plus du 12 avril 2026. Thank you.
Média. 2025, année record pour le nombre de journalistes tués, les deux tiers par Israël. Un texte de l'agence France Presse, paru le 25 février 2026 dans Le Devoir. 129 journalistes et employés de presse ont été tués au cours de l'année 2025 dans le monde, affirme le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, imputant les deux tiers des cas à Israël qui rejette ces allégations. L'armée israélienne a désormais commis davantage d'assassinats ciblés de membres de la presse que n'importe quelle autre armée gouvernementale à ce jour, l'écrasante majorité des personnes tuées étant des journalistes et travailleurs des médias palestiniens à Gaza, écrit l'ONG américaine. L'armée israélienne rejette fermement les allégations présentées dans le rapport du CPJ, a déclaré à l'agence France Presse un porte-parole militaire israélien, affirmant que les forces israéliennes ne visent pas intentionnellement les journalistes ou les membres de leur famille et mettent en œuvre tous les moyens possibles pour réduire les atteintes aux civils, y compris les journalistes. Tout au long de la guerre, il y a eu de nombreux cas où des terroristes ont opéré sous couvert de civils, y compris en se faisant passer pour des journalistes afin de promouvoir des activités terroristes, a ajouté le porte-parole, affirmant que, dans ces cas, toute action entreprise par l'armée contre eux a été due à leur implication dans des activités terroristes et pour aucune autre raison. Après 124 morts en 2024, l'année 2025 marque, avec 129 journalistes tués, le deuxième record annuel consécutif depuis 30 ans que le CPJ tient ce décompte. Outre la guerre à Gaza, 86 journalistes tués, les deux autres conflits les plus meurtriers pour la presse ont été l'Ukraine, 4 morts, et le Soudan, 9 morts, relève le CPJ. Tous en danger. L'un des constats marquants de ces dernières années est la hausse du recours aux drones, avec 39 cas documentés contre seulement 2 en 2023, relève pour l'AFP Carlos Martinez de la Serna, chef de projet au sein de l'organisation. Outre les conflits armés, la criminalité organisée a également été particulièrement meurtrière pour les membres de la presse. Au Mexique, 6 journalistes ont été tués en 2025. Plusieurs cas ont été recensés en Inde et au Pérou. En Arabie saoudite, le chroniqueur de renom Turki Al-Jasser a été exécuté en juin par l'État après avoir été condamné pour plusieurs chefs d'accusation que le CPJ a qualifiés d'allégations fallacieuses utilisées pour punir des journalistes. Il s'agit du premier meurtre documenté d'un journaliste dans l'État du Golfe depuis la mort en 2018 de Jamal Khashoggi. Des journalistes sont tués en nombre record à un moment où l'accès à l'information est plus important que jamais, estime Jody Ginsberg, directrice générale du CPJ. Les attaques contre les médias sont un indicateur majeur d'atteinte à d'autres libertés, et il faut faire bien davantage pour empêcher ces assassinats et punir leurs auteurs. Nous sommes tous en danger lorsque des journalistes sont tués pour avoir couvert l'actualité, ajoute-t-elle. Créée en 1981 à New York pour défendre la liberté de la presse et les journalistes dans le monde, le CPJ, financé par des fonds privés et des fondations, est dirigé par un conseil composé de membres de la presse et des personnalités de la société civile. C'était 2025, année record pour le nombre de journalistes tués, les deux tiers par Israël, un texte de l'agence France Presse paru le 25 février 2026 dans Le Devoir.
Thank you. La fascination du luxe. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 9 avril 2026 dans la presse. Pourquoi sommes-nous fascinés par le luxe? Est-ce la volonté d'afficher son statut social et d'appartenir à une élite? Entrevue avec Vincent Chablot, auteur de « Sociologie du luxe ». Quelle est la définition du luxe aujourd'hui? Il y a l'étymologie du latin « luxuria » qui renvoie à la surabondance et à l'excès. Le luxe est insaisissable. Aujourd'hui, le luxe est une croyance qui attribue au bien de luxe la capacité à vous faire appartenir à une élite sociale. Les sociologues ont défini le luxe par sa finalité sociale. Dire que le luxe, c'est la qualité, la tradition et la rareté, aujourd'hui, ça ne tient pas. Le luxe a intégré la société de consommation, pour le meilleur et pour le pire, car il est soumis aux contrefaçons. Il y a le plaisir de profiter de biens et de services haut de gamme, ce qui peut être accompagné d'une quête d'ascension sociale et de respectabilité. Pourquoi le luxe fascine-t-il autant? Ça nous dépayse socialement. Ce dépaysement social peut faire du bien et procurer de la satisfaction par rapport à un univers plus morose. La consommation du luxe peut aussi venir comme une revanche pour réparer les frustrations du passé. Ça permet de se projeter dans un monde désirable, de mettre entre parenthèses les problèmes du quotidien. La consommation, c'est une forme de participation à la société, et cette consommation du luxe va vous faire appartenir ou vous donner l'illusion d'appartenir à une élite. Le luxe s'est-il démocratisé? Le luxe a changé. En 30 ans, la valeur du marché du luxe mondial a été multipliée par 5. Beaucoup de marques ont élargi leur gamme et ont créé de nouveaux produits pour attirer de nouvelles clientèles. La haute couture est faite pour rêver et pour entretenir la désirabilité des marques. Le défilé Chanel va vous faire acheter un rouge à lèvres Chanel à un prix accessible. Il faut savoir que 50% des ventes sont réalisées par des individus qui ne dépensent pas plus de 3 000 €, 4 800 $, par an dans le luxe. On voit à quel point il a pénétré tous les milieux sociaux, car il y a également un nouveau système marchand qui le rend accessible par le biais des ventes privées, du seconde main et des outlets. Environ 35% des produits de luxe sont achetés à prix réduit. Il faut aussi se conformer à de nouvelles lois environnementales européennes qui empêchent les marques de brûler ou de détruire les invendus qu'il faut écouler. Les réseaux sociaux ont-ils amplifié cet attrait du luxe? Oui. Les créateurs de contenu ont permis de rendre visibles les défilés de mode et les modes de vie des ultra-riches. Ils vont livrer des expertises sur les tendances, les vêtements, les textiles, l'histoire des maisons de haute couture. Il y a un vrai savoir qui est diffusé par les créateurs de contenu. Les gens construisent ainsi une connaissance des marques et des produits qui les éduquent au luxe. Pourquoi le luxe est-il omniprésent? Le luxe a une obsession, celle de renouveler ses clients. Dans quelques années, on prévoit qu'un quart ou un tiers des clients du luxe auront de 18 à 35 ans. Il faut donc aller chercher les clients là où ils se trouvent. Les marques s'implantent dans des domaines qui n'étaient pas les leurs, par exemple, dans le sport, le soccer, les séries, le cinéma, l'art contemporain, dans le but d'avoir un discours global et de vous attirer vers les produits. Est-ce qu'il y a une conscience écologique? Il y a de plus en plus de réglementations environnementales qui vont venir contraindre la production, Et c'est pour cela que certaines marques investissent dans d'autres domaines. Depuis 2023, le marché est stimulé par des expériences de luxe via le tourisme de luxe, l'hôtellerie, la gastronomie. Le luxe a beaucoup investi dans sa communication pour montrer à quel point il se conformait aux réglementations et adoptait une politique RSE, responsabilité sociale des entreprises. Ils mettent en avant le fait que le luxe est durable en utilisant des matériaux de qualité, mais il y a une contradiction car le luxe participe à la tyrannie de la mode avec le renouvellement des collections. Un luxe écologique sortirait de cette tyrannie du renouvellement. Les actionnaires des grands groupes de luxe souhaitent un retour sur investissement, ce qui contribue à accélérer la production, ce qui est le fondement du capitalisme. Et les consommateurs du luxe? Vous trouverez des consommateurs qui vont s'orienter vers des biens d'occasion, mais quand on regarde l'empreinte environnementale des ultra-riches, on voit bien que non seulement leur consommation énergétique est supérieure, mais qu'en plus, ils ne changeront pas leur mode de vie. Les super-yachts sont l'emblème de ce luxe écocide. Dans les Alpes, il y a de moins en moins de neige, ce qui a fait apparaître un nouveau luxe. Déposer les skieurs en hélicoptère au sommet des montagnes. Après Dubaï et le Qatar, le luxe écocide se retrouve ailleurs. Le marché renouvelle toujours des expériences pour les ultra-riches qui sont généralement extrêmement mauvaises pour l'environnement. C'était « La fascination du luxe », un texte d'Olivia Lévy paru le 9 avril 2026 dans « La Presse ».